l'actualité des idées comme tous les jours dans cette dernière partie de la Grande Table, mettre les idées en débat avec modération. Et ce midi, la revue Esprit qui consacre son numéro de rentrée à l'avenir de la gauche à l'heure de son effondrement électoral. Cet exercice de prospective peut paraître paradoxal, comme le soulignent ses rédacteurs, sauf que on peut aussi postuler avec la revue que les forces mobilisées à l'origine ne sont pas mortes, qu'elles sont surtout désorientées, que la gauche à l'épreuve de la mondialisation et à l'épreuve du progrès souffre d'abord d'un déficit de réflexion. Et ben, on va y réfléchir, à cette gauche, à son état et à la direction qu'elle pourrait prendre pour peut-être vivre. Invité pour en parler, le philosophe Michael Fossel, titulaire de la chaire de philosophie à l'école polytechnique, membre de la rédaction de la revue Esprit. Votre état de vigilance, paru en 2010, ressort par ailleurs au Seuil dans la collection Point, avec une postface inédite. Bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, première question, question préambule, préalable, comme toujours dans la Grande Table. Comment allons-nous, Michael Fossel ?
Sans doute irions-nous mieux ou pourrions-nous aller mieux si nous ne posions pas la question de l'identité de ce nous de manière un petit peu fantasmatique. On a beaucoup parlé de la question de savoir si l'identité était heureuse ou malheureuse. Je dirais qu'il y a aussi des moments peut-être heureux et sans doute heureux qui sont des moments où cette question se suspend de savoir quelle est notre identité, d'où venons-nous, sommes-nous véritablement gaulois ?
Quel est le point de départ ou le constat de départ de ce dossier, Michael Fossel, que l'on ne sait même plus peut-être comment nommer, ou ce que l'on nomme quand on parle de la gauche, que le terme est devenu un espèce de signifiant flottant, comme vous l'écrivez, et qu'il y a urgence à lui retrouver un sens. Je veux dire, ce dossier, vous le faites là, en cette rentrée 2016, est-ce que vous n'auriez pas pu le faire aussi à la rentrée 2015-2014, et probablement à la rentrée 2017
Sans doute, à la rentrée 2017, la gauche aura très certainement, de par le fait la nécessité
d'inventaire
à faire, de se redéfinir, et probablement sous la forme effectivement d'un devoir d'inventaire. Ce qui nous a semblé important, effectivement, c'est d'expliquer la manière dont ce terme est devenu, vous l'avez rappelé, un signifiant flottant, c'est-à-dire qu'il il fait semblant de réunir des politiques, des prises de position et peut-être aussi des expériences, parce qu'il ne s'agit pas seulement avec la gauche et la droite de conflits partisans, mais aussi de formes de vie, de représentation de ce que signifie la société. Eh bien, il réunit des expériences et des positions qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres, mais pour autant, donc ça c'est le point. C'est le constat que l'on peut faire aujourd'hui, si vous voulez, de la gauche qui irait de Macron à Mélenchon et qui, de ce point de vue-là, comme on le dit souvent, n'a plus serait peut-être irréconciliable. Et en même temps, nous tenons, enfin, ce dossier essaie de montrer aussi que le clivage droite-gauche est un clivage absolument structurant et nécessaire pour la politique, tout simplement parce, pour la démocratie, je dirais, tout simplement parce qu'il politise les conflits. Et que, de ce point de vue-là aussi, il nous évite de tomber dans d'autres, il n'y a pas de politique sans clivage, dans d'autres formes de clivage qui, elles, ne sont pas politiques, comme le clivage, évidemment, qui tente à s'imposer aujourd'hui de manière hélas massive, nous et les autres, l'autochtone et l'étranger. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut y réfléchir à deux fois avant de déclarer que la différence droite-gauche est dépassée.
Et vous parlez d'un déficit de réflexion, pourtant on a l'impression que la gauche, ou en tout cas le Parti Socialiste, n'arrête pas d'essayer de réfléchir à son sens, à son avenir, encore ce week-end à l'Homme dans le Nord, où des universités de l'engagement en présence de Martine Aubry ont débuté. On va réfléchir jusqu'à la fin décembre, en lieu et place des universités d'été du PS à Nantes ou à La Rochelle qui avaient été annulées pour des raisons de sécurité. Il y a aussi une multiplication aujourd'hui des candidatures en vue de la prochaine présidentielle, d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon, peut-être Emmanuel Macron, peut-être pas, François Hollande, peut-être pas, mais chacun prétendant incarner aussi un socialisme, une gauche bien à lui, et tentant d'expliquer en quoi l'un est de gauche et peut-être pas l'autre. Donc il y a quand même une réflexion qui semble s'être engagé, mais qui en même temps laisse quand même cette idée d'une gauche désorientée. Pourquoi ?
Parce que il faut s'entendre sur ce qu'on entend par réflexion. Si vous voulez, nous n'avons jamais eu autant de think tanks, d'experts, de réunions. Vous en avez cité quelques-unes pour redéfinir, comme à chaque fois dans la détresse, en quelque sorte, ce que pourrait être la gauche d'aujourd'hui, ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle devrait réaliser, la manière dont elle devrait elle-même se nommer. L'effort qu'on a essayé, évidemment, très humblement, de réaliser dans ce dossier d'esprit, c'est plutôt de montrer qu'aussi la gauche, historiquement du moins, reste à savoir si c'est encore ouvert, c'est défini comme un type de savoir sur le social qui n'est pas réductible à l'expertise, qui n'est précisément pas réductible non plus, évidemment, à des positionnements électoraux. Que l'on soit dans la tradition marxiste ou dans la tradition socialiste à la Durkheim, il y avait cette idée que l'intelligibilité du social n'était pas simplement une affaire, je dirais, technique ou d'expert, mais qu'elle portait avec elle aussi un projet de société. Autrement dit, mieux comprendre la société, mieux l'expliquer, c'était en même même temps, d'où la notion d'avenir, c'était en même temps pouvoir déchiffrer dans le présent ce qui pouvait être l'avenir en termes de justice sociale. Cette fois-ci, je crois que ce sens du mot réflexion, c'est-à-dire pas simplement, encore une fois, l'analyse en termes relativement abstrait de croissance, d'emploi, de l'avenir et de la société. Ce genre de réflexion, je dirais, méta, en quelque sorte, pas nécessairement évidemment philosophique, mais dans le sens d'une science sociale au service de l'émancipation, a un peu déserté, je trouve, y compris les travaux des partis politiques qui se réclament encore aujourd'hui de la gauche. D'une certaine manière, on peut dire qu'à chaque fois que se réunit une nouvelle tentative d'assise de la gauche, de refondation, eh bien, ce que l'on constate, c'est la difficulté, voire même parfois la détresse dans laquelle ce terme se trouve aujourd'hui.
Alors pour trouver l'avenir de la gauche, par où faut-il commencer à chercher? Antoine Mercier, qui est avec moi jusqu'à 13h30, vous a lu et bien
voilà,
lu.
Voilà, peut-être commencer par ouvrir le moteur, c'est ce que vous faites en fait dans votre article « Le temps de la gauche ». La gauche est en crise, je résume la thèse, hein, parce qu'elle a perdu sa foi dans le progrès réformiste ou révolutionnaire. L'économie mondialisée s'impose à nous comme un avenir déjà réalisé auquel il faudrait s'adapter. Voilà le problème, voilà le diagnostic. La gauche est en crise
de foi,
parce qu'elle a perdu sa foi dans l'avenir. Comment, peut-être avant de voir évidemment les solutions que vous pouvez vous proposer, on ne voit pas bien ces horizons nouveaux, mais enfin on en parlera avec vous. Sur le constat d'abord, bah, effectivement ça fait plusieurs années qu'on le dit, que ce constat est fait et on a l'impression que ça se dégrade toujours un peu plus. C'est assez extraordinaire comme phénomène perception.
Certainement, il y a un phénomène, Antoine Garapon aussi le remarque dans ce dossier, il y a un phénomène qu'on pourrait appeler, disons si vous voulez, de ringardisation de la gauche, c'est-à-dire que la gauche est historiquement constituée, pas seulement comme une force, disons, de progrès, mais comme une puissance qui était une force, un ensemble de partis ou une classe sociale qui était en mesure de nommer l'avenir, de se le représenter sous la figure soit de la révolution, soit de la réforme. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je crois qu'on a on aurait intérêt, en tous les cas, peut-être aussi pour apaiser les choses, mais certainement en tout cas pour les clarifier, de ne pas opposer de manière absolument antinomique ces deux modèles, ou maintenant on dirait plus gauche révolutionnaire, mais gauche radicale et gauche réformiste.
Parce que eux-mêmes s'opposent, hein, en tout
bien
cas,
sûr, non,
les tenants ou les partisans de l'un et de l'autre.
Ils s'opposent, simplement, si vous voulez, c'est une loi logique, la loi du tiers exclu. Si la gauche, réformiste fait alternative avec la gauche radicale, il n'y a plus de place logique pour la droite. Hein. C'est assez simple à comprendre, c'est peut-être ce que certains ont d'ailleurs en vue. Mais simplement, il y a un point commun, c'est-à-dire que les deux se réclamaient d'un avenir. Alors, ce sont évidemment, la fin était peut-être plus ou moins la même, mais les moyens divergeaient fondamentalement. Alors, cette crise du progressisme, on a tendance à l'expliquer par les échecs historiques, je dirais, à la fois évidemment du communisme réel et même, disons, de la social-démocratie. Et évidemment, la manière dont la gauche a échoué historiquement à transformer l'avenir, ou en tout cas à le modifier de manière substantielle, joue un rôle. Je crois qu'il y a une crise plus profonde, et de ce point de vue-là d'ailleurs, qui appellerait des réponses certainement plus nuancées, plus complexes, qui est qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire l'avenir a changé de camp. C'est-à-dire que le néolibéralisme prétend à réaliser, et réussi d'ailleurs remarquablement, il faut bien le dire, une OPA sur l'avenir en l'individualisant. Eh bien, en affirmant que l'émancipation des individus passait nécessairement par la culture inégalitaire de la concurrence. Et il y a des désirs aujourd'hui, des désirs de mobilité, vous évoquiez dans le journal, disons, la question des auto-entrepreneurs, des désirs de ne pas rentrer dans des cadres sociaux qui sont jugés inutilement hiérarchiques. Le CDI lui-même ne fait pas toujours l'objet d'un désir. Et la gauche se retrouve, et là je parle de toutes les gauches, face à un dilemme qui est à la fois de tenter d'épouser ces désirs qui sont a priori hostiles à l'idée d'une émancipation collective.
Ça, c'est Macron.
C'est l'émancipation, c'est la mondialisation heureuse. Et puis de l'autre, l'idée quand même, si on est de gauche, je dirais, de vouloir que ces désirs puissent au moins s'articuler à des principes de justice qui font que ce qui est vécu en haut comme une mobilité heureuse ne soit pas subi en bas comme une précarité de tous les instants. Et par conséquent, il y a je n'aime pas du tout ce terme, enfin disons un logiciel de gauche qui est en panne parce que soit, encore une fois, il est dans l'apologie du présent, mais de ce point de vue-là, ne se distingue pas véritablement de ce qui déjà se produit, soit il y a une mélancolie de gauche, c'est-à-dire une tentation, je dirais, de regarder derrière soi, ce qui n'est pas tellement l'habitude de la gauche, si vous voulez, d'un œil un peu désabusé, soit la révolution, soit même l'État-providence, puisqu'on a parfois la surprise de constater que même des militants d'extrême gauche sont mélancoliques par rapport à la, aux Trente Glorieuses ou à l'État-providence qu'ils ont pourtant combattu. Alors, la solution, enfin je dis tout de suite d'ailleurs que la solution en termes de problème solving, il n'y en a pas, parce que précisément le problème, c'est d'envisager le politique comme du problème solving.
Problème solving étant la résolution du problème ou non?
Non, le problème solving, à mon sens, enfin c'est pas à mon sens seulement d'ailleurs, c'est déjà une idéologie, c'est-à-dire une idéologie qui est assez hostile à la gauche, je crois, c'est-à-dire la certitude que l'action politique relève simplement d'une expertise ou d'une forme de technocratie.
Donc de gestion.
De gestion. Alors cela dit, la gauche a historiquement parfois donné aussi dans cette conception extrêmement scientiste finalement de la politique, mais elle a échoué dramatiquement. Donc en réalité, l'évidence progressiste n'a pas seulement disparu dans le collectif, je dirais, ou dans les discours publics, elle a souvent disparu, elle est en tout cas remise en cause, dans l'expérience même des individus du fait, encore une fois, de cette révolution néolibérale, ont tendance à penser que leur propre liberté passe par la mise en concurrence généralisée des vies.
Vous avez parlé de mélancolie. Pourquoi la mélancolie serait forcément quelque chose qu'il faudrait rejeter? Je veux dire, dans ce regard qu'il peut y avoir sur le passé, il y a aussi d'une certaine manière la mémoire de l'action, la mémoire aussi d'une pensée critique. C'est l'historien italien Enzo Traverso qui réfléchit justement à cette mélancolie de gauche et à la force qu'on peut retrouver d'une tradition cachée dans un essai qui paraîtra très prochainement à la découverte, et qui ne se met pas dans une posture nostalgique, celle du regret. C'est pas une raison effectivement de commencer à penser que tout était mieux avant et qu'il faut arrêter le temps dans le passé, mais quand même peut-être alimenter les luttes aujourd'hui et ces courants critiques de ce qui s'est fait hier.
Bien sûr, et d'ailleurs je me serais mal exprimé si j'avais suggéré que la mélancolie devait être abandonnée aux réactionnaires, pas du tout. La mélancolie, elle pose évidemment, elle permet au moins de partir d'un diagnostic. Qu'est-ce que la gauche a perdu pour que se trouver dans cette situation? Quel est l'objet de la perte pour qu'elle se trouve dans cette situation à la fois électorale, mais je dirais culturelle, et pas seulement en France du reste, hein, parce que le phénomène, la social-démocratie européenne est elle-même largement affectée. Alors évidemment, d'ailleurs Walter Benjamin parlait déjà de la mélancolie de gauche, c'est-à-dire d'une manière de se rapporter au passé du point de vue des vaincus, c'est-à-dire du point de vue des possibilités non réalisées de l'histoire. Et la gauche peut très bien effectivement, d'un point de vue subjectif je dirais, se réapproprier ce qui n'a pas marché pour essayer évidemment de faire autre chose. Et c'est là que la mélancolie malgré tout reste limitée, parce que je ne crois pas non plus que l'on puisse simplement revenir aux modèles anciens, tout simplement parce que cela, c'est un point qui est beaucoup développé là dans ce dossier, la mondialisation, ça n'est pas seulement un mot, si vous voulez, qui désigne un projet que l'on peut combattre, ce sont aussi des transformations radicales dans la manière dont nous représentons le monde. J'entendais tout à l'heure dans votre journal Arnaud Montebourg dire que la souveraineté, c'était l'avenir, bon, d'ailleurs en suggérant qu'elle avait été inventée sous la Révolution française, bon, elle était déjà beaucoup plus ancienne. La souveraineté, on peut très bien évidemment penser que la démocratie est indissociable de la souveraineté, mais là, il faut quand même poser la question de savoir si l'on peut revenir aux États comme figure de résistance exclusive par rapport au marché, et puis si d'autre part, les États, l'étatisme, le républicanisme de gauche au sens cette fois-ci extrêmement substantialiste du terme, extrêmement militant du terme, est véritablement une voie d'issue, parce que là aussi les leçons de l'histoire nous apprennent que l'État ne constitue pas l'État actuel, je dirais, le démontre, une puissance, disons, de résistance, voire même d'ailleurs de limitation des pouvoirs du marché. Il peut très bien se soumettre lui-même à cette logique.
Donc si on ne regarde pas vers l'État, on regarde où ?
Eh bien, on regarde peut-être vers ce qui est un petit peu le troisième terme perdu aujourd'hui, c'est-à-dire la société civile, puisqu'on a tendance, en règle générale, à opposer l'État au marché, ou alors d'ailleurs à déplorer que l'État se soit lui-même soumis au marché. Mais le phénomène caractéristique de ces 30 dernières années, je crois, du moins dans ce domaine, c'est la disparition de ce qui avait été une instance quand même critique mobilisée, je pense par exemple au début, je dis bien, de la deuxième gauche, c'est-à-dire la société civile, parce que la société civile tend finalement à être colonisée en quelque sorte par le marché. Or, il y a, enfin là je défends un peu l'hypothèse que j'ai défendue dans l'article, je reprends cette hypothèse plutôt, il y a dans la société civile des formes d'organisation associative, des formes de vie, des formes d'adhésion parfois qui peuvent sembler à un militant de gauche totalement hors politique, c'est-à-dire des formes de vie affectives, parfois même disons religieuses, associatives.
Par exemple, plus concrètement.
Ben, les formes de vie associative, il y en a beaucoup. C'est-à-dire toutes ces tentatives par lesquelles les individus, que ce soit pas forcément seulement dans l'humanitaire, mais des formes de vie, moi je pense à des choses extrêmement, extrêmement variées, comme le désir, disons, de ne plus faire simplement du tourisme de masse, mais de faire du tourisme, humanitaire, comme on le dit, de ne plus se contenter simplement de l'école comme simplement une institution, si vous voulez, mais de réfléchir à toutes les questions de pédagogie et même de faire de l'expérimentation dans ce domaine. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, qui sont des tentatives qui souffrent de ne pas recevoir dans le champ politique, dans le discours politique, de traduction. Et moi, il me semble qu'on l'a vu même d'ailleurs au moment de Nuit Debout, quoi qu'on ait pensé par ailleurs de la limitation de ces tentations, ou de ces tentatives plutôt, il y a eu des essais pour mettre en forme des vies, des formes d'expérience qui ne reçoivent pas, c'est ça qu'on appelle aussi la crise de la représentation, un équivalent dans le discours public. C'est ce que j'appelle la société civile. Alors évidemment, la société civile aujourd'hui, elle est atteinte, je dirais, par le fait que tous ces processus d'individualisation, de mise en concurrence, ont affecté ses capacités, y compris, vous avez reçu tout à l'heure une syndicaliste, hein, le syndicaliste est aussi un très bon exemple, si l'on veut, de la politisation de la société civile par d'autres voies que celles, disons, de la politique. Bon, bah, là aussi, il y a des difficultés, mais je ne crois pas pour autant, du moins je ne veux pas croire, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à retirer l'échelle, que le face-à-face qui se dessine devant nous soit absolument définitif entre l'État d'un côté et ses pesanteurs, le marché et sa flexibilité généralisée.
Antoine, merci. Puis après, on viendra à cette question du temps.
Ouais, est-ce que la société civile est en mesure de régler la question de la perte de la foi dans le progrès? On a plutôt l'impression que ce sont des réflexes qui sont peut-être tout à fait louables, mais sont plutôt sur le mode de l'organisation à l'ancienne, on va dire, d'un retour à une forme d'organisation à échelle humaine. En quoi on pourra retrouver par ce biais là l'idée qu'on aurait une visée, une vision, un avenir collectif pour la gauche?
Alors l'évidence progressiste qui s'est perdue, je ne pense pas qu'elle puisse revenir comme elle était, encore une fois, à l'identique, hein, c'est-à-dire cette idée, parce qu'elle était associée, si vous voulez, pour le dire rapidement, à une philosophie de l'histoire dans laquelle, de toutes les manières, une classe déterminée, la classe ouvrière par exemple, aurait en dernière analyse le dernier mot. Bon, et que tous les sacrifices, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui fait que la gauche entre en crise, je dirais, existentielle en quelque sorte, c'est qu'elle était toujours liée historiquement à quelque chose de sacrificiel, c'est-à-dire qu'il fallait néanmoins passer par un certain nombre de difficultés dans le présent pour que l'avenir s'ouvre. Alors vous parlez de la société civile et de l'avenir. La question effectivement c'est celle du temps. Moi je pense que on constate, je ne suis pas du tout le seul à le dire d'ailleurs, que le progrès ou au progrès s'est substitué l'accélération généralisée des processus, des modes de vie, des rythmes de travail aussi, et puis d'ailleurs avec cette accélération en même temps une sorte d'affaiblissement des frontières entre le privé, la vie publique, la vie salariale, la vie intime. Bon, cette accélération, elle se nomme elle-même généralement progrès, hein, progrès vers la flexibilité, progrès vers une plus grande liberté, progrès vers en direction plutôt d'une liberté individuelle accrue. Donc je dirais que d'une certaine manière, si l'on veut résister à ces processus d'accélération, il faut d'abord montrer qu'ils ne correspondent pas à des progrès réels. On peut le montrer d'un point de vue théorique, mais on peut le montrer aussi, je dirais, d'un point de vue empirique, parce que les individus, d'une manière générale, là, les sociologues seraient beaucoup mieux aptes que moi à le montrer dans le détail, mais tentent d'échapper, je dirais, par la ruse, par toute une série de moyens, à ces injonctions à l'accélération qui ont lieu dans leur vie professionnelle en particulier. Il me semble que la gauche, et là, je ne préempte pas le fait qu'elle soit réformiste ou radicale, aurait intérêt à s'appuyer aussi sur ces expériences, je dirais, réelles de mais qui malheureusement évidemment laissent les individus seuls face à la ou alors dans des petits collectifs associatifs, je l'indiquais tout à l'heure, ou sous certaines formes alternatives plus radicales comme à Tarnac, qui d'une manière générale n'ont évidemment pas d'impact n'ont pas d'impact du point de vue de l'ensemble de la population et en particulier électoralement. La gauche aurait intérêt aussi à trouver, je ne dis pas que c'est facile évidemment, mais à trouver une manière de réarticuler le temps du monde qui apparaît être un destin qui s'abat sur nous, une évolution par rapport à laquelle nous serions en quelque sorte désarmés, qu'on appelle globalisation, bon, et puis le temps de la vie. Et si vous voulez que je vous dise les choses de manière un peu peut-être trop simple ou trop facile, je dirais qu'il y a à mes yeux beaucoup d'individus, j'en connais du moins, qui sont de gauche mais qui ne le savent pas. C'est-à-dire dans le mode de vie, enfin qui pensent, qui vivent, disons, dans le mode de vie, le mode affectif, le mode de... Les tentatives pour se soustraire à ces impératifs d'accélération et de productivité sont déjà, d'une certaine manière, progressistes dans un sens, dans un sens politique, mais qui ne retrouvant jamais dans le champ politique leur, la valorisation de leurs propres tentatives, eh bien, au fond, ne pensent pas du tout que cela puisse passer par la scène de la représentation politique classique, en tout cas
partisane. Quelle résistance, vous parlez de quelle résistance?
Mais même des résistances qui sont de l'ordre de la débrouille, si vous voulez, la manière dont les individus se tentent d'échapper à cette contrainte de toujours plus de production, ça passe encore une fois par la ruse, ça passe par et puis ça passe même par des formes de vie alternatives. On sait que en France, je ne sais pas, mais aux États-Unis, qui est un pays déjà très en avance, je dirais, quant au néolibéralisme, plus de 20% de la population passe sous les les radars de la société, enfin plutôt de l'administration. Ils vivent dans des formes qui seraient d'ailleurs intéressantes d'expliciter, d'organisation, peut-être de communauté, qui en tous les cas ont rompu avec le système électoral. Si les mouvements qui prétendent du moins à une forme d'émancipation sociale ne s'adressent pas à cette frange ou à ces franges de la population, évidemment l'avenir pour la gauche n'est pas garanti, disons.
La gauche ne peut s'offrir le luxe d'un tel scepticisme sur le sens du temps, écrivez-vous, Michael Fossel. Vous êtes l'invité de la deuxième partie de cette grande table jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution du numéro de rentrée de la revue Esprit sur l'avenir de la gauche, et de citer en ouverture de votre contribution les mots de Jean Jaurès lors de son discours à la jeunesse prononcé en 1903. Les forces de la justice ne peuvent pas se passer du temps. Pour vous, ce n'est pas tant l'idéal de la gauche qui est en crise que sa réalisation temporelle. En gros, la gauche aurait divorcé d'avec son temps, et le temps, c'est la synthèse.
France Culture, la grande table, Olivia Jespère.
Quelle heure est-il? 13h18, puisqu'on va tenter de se réunir, de se remarier avec notre temps à nous. Michael Fossel, il y en a qui plaident aujourd'hui encore pour une accélération du temps. Il y a ce manifeste qui est paru en 2013, porté par des Britanniques, et qui estimait qu'il fallait peut-être mettre en œuvre une politique accélérationniste. Mathieu Pont-Bonneville, votre confrère philosophe, nous en donne les tenants et les aboutissants.
En un sens, la position de Schnirschek et Williams, c'est le retour d'une tendance assez ancienne et devenue assez souterraine dans la pensée de la gauche radicale, qui est cette tendance qu'on trouvait chez Marx. Lorsque Marx s'opposait aux socialistes utopiques, qu'il disait non, l'avenir n'est pas à imaginer comme un ailleurs complètement différent du présent. L'avenir révolutionnaire, c'est cette tendance qui travaille déjà de l'intérieur le présent et la dynamique du capitalisme. C'était que, au fond, la force la plus dissolvante, la plus radicalement corrosive vis-à-vis des vieilles identités, des vieilles religions, des vieux ancrages, etc., c'est le capitalisme lui-même, et que c'est de cette force-là qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a le retour de cette affaire-là. Et le retour de cette affaire-là, j'ai l'impression que le texte le fait jouer sur deux fronts. Il y a cette affaire d'éthos, cette manière de dire à la gauche, cessez donc d'être mélancolique, allez plus vite plutôt que d'essayer de ralentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se le demander. Et puis il y a autre chose qui est très simplement une manière de dire toi-même à un discours ambiant, pour lequel le problème, c'est que la société est bloquée, que malheureusement, il faudrait accélérer le rythme des réformes, que malheureusement, etc. Et au fond, il y a un peu dans cette affaire-là la même opération que dans la critique du néolibéralisme au début des années 2000, quand on disait le néolibéralisme nous reproche d'être une idéologie, mais c'est une idéologie.
Michael Fossel, si la gauche politique doit encore avoir un avenir, alors que doit-elle faire? Continuer à essayer de résister à cette accélération du temps, pour vous, ou au contraire essayer de suivre le mouvement, voire l'accentuer, comme le préconisent les auteurs de ce manifeste?
Certainement pas la deuxième branche de l'alternative, à mes yeux, parce que, d'ailleurs, Mathieu Pont-Bonneville le disait, je suis pas sûr qu'il épousait toutes les thèses qu'il résumait là, mais il le disait, c'est une manière de revenir à une croyance, alors là, pour le coup, du progressisme un peu dogmatique, selon selon laquelle, le capitalisme porterait, marxiste typique, porterait dans son sein les germes de sa contradiction et de son annihilation. Alors je trouve dans les thèses, disons, accélérationnistes, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent, consistant à dire en gros qu'il faut épouser et même, disons, accélérer l'accélération dont nous serions déjà aujourd'hui les victimes pour déboucher. Alors sur quoi? C'est la question évidemment à laquelle la réponse n'est jamais donnée, sinon peut-être la fin du monde. Dans cette thèse, il y a une naïveté incroyable, c'est-à-dire finalement, le capitalisme, c'est toujours cette conviction qu'il ne peut pas ne pas s'abolir lui-même dans la technique et par la technique. Et alors cette technophilie, je dirais, qui a déjà tant coûté à la gauche, cette conviction progressiste et même productiviste qui, qu'elle soit d'ailleurs, je le répète, marxiste ou même social-démocrate, a été, ou s'est retournée très clairement contre la gauche, qu'elle puisse revenir sous cette forme, disons, post-moderne, transhumaniste, de l'accélérationnisme, me paraît, bon, disons, dans le meilleur des cas, assez naïf, surtout à une période où la gauche a affaire, d'ailleurs. C'est une question aussi qui se pose pour un mouvement politique ou une idéologie qui se réclame de l'avenir. Évidemment, pour se réclamer de l'avenir, il faut qu'il y ait un avenir. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à des problématiques, en particulier dans le domaine écologique, qui posent la question de savoir, tout simplement, si nous pouvons simplement compter sur l'avenir avant même de le nommer et avant même de pouvoir débattre sur celui que nous voulons.
Oui, justement, crise économique, dérèglement climatique, on ne peut pas vraiment dire que l'avenir en ce moment se présente quand même sous son meilleur jour. On peut en évoquer cette crise de foi en début d'émission avec Antoine Mercier. Que faire contre ça?
Alors là, je reviendrai un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, la faculté de nommer l'avenir, la gauche l'a comprise historiquement. Je citais effectivement Jaurès au début de cet article. Elle l'a comprise, historiquement, au sens de, et au fond, les mouvements de gauche, là encore, réformistes ou révolutionnaires, doivent nommer l'avenir collectivement et ne pas partir, disons, de l'individu et ensuite essayer de convaincre, je dirais, les individus de s'élever ou à la conscience et surtout au combat, en faveur de cet avenir collectif. Il me semble qu'on ne peut pas ou ne peut plus actuellement, en tout cas, partir d'une représentation de l'avenir qui soit une représentation évidente, qui s'impose à tous et qui se définisse aussi, puisqu'évidemment, il faut quand même un peu définir la gauche en termes d'égalité, parce que ce qui fait la grande différence, à mon sens, entre la gauche et la droite, c'est pas le concept de liberté, car il y a une droite libérale, c'est le fait que la gauche considère que la liberté ne peut disjoindre de l'égalité sociale, ou en tout cas de l'idéal et du travail en faveur de cette égalité. Il vaut mieux donc partir, à mon sens, des expériences concrètes. Et Antoine Mercier demandait aussi quels exemples. Eh bien, au moment, on aurait pu en parler avec la représentante de la CFDT, au moment des manifestations contre la loi El Khomri, j'ai vu une pancarte portée par un étudiant, bon, peu importe, qui était « Soyez réaliste, demandons l'évident ». Soyons réalistes, demandons l'évident. Alors évidemment, là aussi, on a toute la mélancolie de gauche, c'est-à-dire face à « Soyons réalistes, demandons l'impossible » de mai 68, on peut dire, voilà bien une gauche qui en a rabattu sur ses propres exigences ou sur ses propres idéaux.
L'évident étant quoi?
Alors, vous, l'évident étant précisément que, il paraissait, puisque c'était la loi El Khomri, assez étonnant qu'à un moment où le chômage n'a jamais été aussi haut, on considère que la solution consistait en gros à faciliter le licenciement. De la même manière, on peut considérer comme non évident le fait que à l'heure où un nombre très important de seniors, comme on dit, est au chômage, eh bien la première des nécessités, c'est de rallonger la durée de cotisation ou l'âge de départ à la retraite. L'évidence, c'est-à-dire au fond le sens commun, c'est peut-être ça l'opportunité fondamentale à mon sens pour la gauche ou les gauches, disons. Le sens commun, qui généralement est considéré comme étant relativement réactionnaire ou relativement conservateur, hein, le sens commun là aussi a changé de camp à partir du moment où, et c'est ce qu'explique dans un article qui est Edwig Marzolt, dans un article d'Esprit sur le discours de Podemos. Le discours de Podemos en Espagne, bon, qui a rencontré un succès mitigé, mais enfin en tout cas incomparablement plus grand que celui des gauches françaises aujourd'hui, eh bien le discours de Podemos consistait à dire finalement, je le résume ici, eh bien la révolution elle a eu lieu, simplement ce n'est pas nous qui l'avons faite. La transformation totale, y compris en termes d'accélération, y compris en termes de vécu temporel et en termes, disons, de mode de vie, elle s'est faite du côté du néolibéralisme. néolibéralisme. Autrement dit, l'opportunité qui est donnée aujourd'hui à ceux qui s'opposent à ces transformations, c'est de pouvoir se réclamer du sens commun plutôt que de vouloir accélérer l'accélération dans un sens ou dans une direction que l'on ignore. Et c'est cela, le sens commun, cela veut dire les 99% de Sanders, ça n'a pas si mal marché, contre le 1%. C'est-à-dire cette idée qu'il y a simplement quelque chose d'aberrant dans la conviction, par exemple, tiens, que c'est par de nouveaux ou de nouvelles inventions techniques que l'on va pouvoir éviter les désastres des anciennes inventions techniques ou de l'usage.
Mais ces inventions techniques, ça sert aussi justement à ce que vous appelez les groupes qui décrochent ou qui s'organisent, s'auto-organisent dans la société civile. C'est aussi utile pour eux. Pour s'organiser, d'avoir ce progrès. Alors, c'est pas forcément incompatible.
Non, c'est pas le contenu, si vous voulez, des inventions. Enfin, ce n'est pas les inventions techniques ici qui posent problème. C'est cette croyance fondamentale que la technique est la résolution à nos problèmes. Qu'ensuite, bon, ça dépend, parce que si vous avez, il y a quand même aussi beaucoup de mouvements, disons, alternatifs qui se sont retournés plutôt vers des formes de d'exploitation de la terre, par exemple, plutôt écologistes ou plutôt non technicistes. Mais moi, je n'ai, quant aux objets techniques, absolument aucune doctrine, si vous voulez. Par contre, je pense que...
Mais pour vous, l'innovation est en soi, je sais pas, antidémocratique ou inégalitaire ?
Ah bah, non, bien sûr que non. L'innovation, l'invention n'a rien de ni d'anti-démocratique ni d'égalitaire. Ce qui, évidemment, pose problème, politiquement, c'est la substitution de l'innovation individuelle et dans le cadre du marché au progrès, en général.
Social,
c'est-à-dire à l'idée d'une collectivité qui échappe un peu à ses règles. Donc, ce n'est ni la technique, ni l'innovation, ni la foi dans le présent qui pose problème. C'est l'élévation à chaque fois de ces éléments ou de cette partie de l'expérience au rang de normes. Si bien d'ailleurs que ceux qui, et ils sont nombreux, on peut au moins reconnaître cela socialement, ceux qui ne sont ni du côté de cette innovation, ni du côté de cette accélération heureuse, apparaissent comme, non seulement comme des exclus, mais je dirais comme des êtres qui parfois sont superflus ou considérés comme superflus. Et de ce point de vue-là, évidemment, il ne faut pas tellement s'étonner de ce que leurs ressentiments les portent plutôt vers des formes réactionnaires politiquement.
Dernière question d'Antoine.
Réajuster le temps de la vie et le temps du monde. Mais le temps du monde, il a son temps propre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, par ailleurs, s'occuper du temps du monde, donc refaire de la politique plus traditionnelle ?
Mais bien sûr qu'il faut s'occuper du temps du monde. Vous dites le temps du monde a son temps propre.
Oui. Parler de réajustement.
Oui, il faut le réajuster, c'est-à-dire, à mon sens, que la gauche, si elle a encore alors un avenir, elle doit proposer, construire ou suggérer des transformations du temps du monde qui soient déjà présentes ou qui soient déjà, d'une certaine manière, désirées par ceux qui essaient d'aménager leur temps de la vie pour échapper à cette accélération généralisée. Mais il est bien évident que si le temps du monde est, si l'on admet plutôt que le temps du monde fonctionne tout seul, est automatique, alors, dans ce cas-là, non seulement il n'y a plus besoin d'être gauche, mais il n'y a plus besoin de faire de politique. Le temps du monde n'est pas dicté par ni par les horloges, d'ailleurs, ni par les ordinateurs, ni par les algorithmes. Au fond, dans cette conviction, dans cette croyance selon laquelle les algorithmes vont régler ce temps mieux que nous, eh bien, il y a un fantasme post-politique, au fond, une fatigue par rapport à la politique. Bon, la gauche, évidemment, et peut-être même d'autres formes d'investissement qui se réclameraient plutôt du libéralisme classique, elle a besoin de penser que le temps du monde, elle a besoin non seulement de penser, mais de montrer que le temps du monde n'est pas un destin, qu'il n'est pas plus qu'il n'était hier dans les mains des dieux ou dans les mains des rois, il est aujourd'hui dans les ordinateurs.
Et donc, avec un peu de patience, vous pensez que le temps de la gauche peut revenir ?
Le temps de la... Oui, c'est une question de savoir. La gauche et la droite, c'est né historiquement, donc on peut penser que ça va mourir. Moi, je pense que ça a encore de l'avenir, dans la mesure simplement où la révolution égalitaire, l'idée que les injustices ne font plus destin, elle est ancrée tout de même dans les esprits beaucoup plus profondément qu'on ne le croit depuis les débuts de la modernité.
Merci beaucoup Michael Fossel, philosophe qui était notre invité, membre de la rédaction de la revue Esprit, qui fait paraître en ce mois de septembre son numéro de rentrée consacré à l'avenir de la gauche, entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses à lire, notamment des contributions sur la Turquie et le coup d'État raté, des questions qui se posent aussi sur la Grèce, sur Donald Trump, les migrants et puis du théâtre, du cinéma avec Chris Marker. C'est dans le dernier numéro donc de la revue Esprit. Merci beaucoup. Merci aussi à la fine équipe de La Grande Table, à Claire Maillot, Clémence Marie, Farah Kéram, Inès Magrive, Jean-Christophe Briançon et Henri Leblanc, à la réalisation Perret Legras avec Élise Leu. La Grande Table, je vous le rappelle, ce tweet, ce like et ce podcast sur franceculture.fr. À demain.